les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Moi, fille et petite et fragile, juste dû n'être rien, écrivait Anita Conti, première femme océanographe française, née en 1899 et disparue en 1997. Elle a traversé le siècle et les mers. En 1972, son troisième livre, après Racleur d'océan et Géant des mers chaudes, L'océan, les bêtes et l'homme, paraît et obtient le prix de la mer. La même année, le 24 septembre, Anita Conti est racontée sur France Culture dans l'émission Livres de Grand Air. La dame de la mer, comme on l'appelle. Elle voulait tout connaître, des océans, faune et flore, courants et marées, fonds et ressources, histoire, et en précurseur, déjà, leur survie. Nous sommes les gérants de la terre et d'eau qui devront nourrir les foules de l'avenir, comme elle l'écrit. Bon voyage, bonne traversée, avec celle qui écrivait « Dès que je mets le pied à bord, je voltige, la vie est là ».
L'ADELFE, ou Association des écrivains de langue française, mer et outre-mer, vient d'attribuer pour la seconde fois son grand prix de la mer et elle l'a attribué à Anita Conti pour son ouvrage « L'océan, les bêtes et l'homme » paru chez André Bonne. Anita Conti n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle a publié déjà voici une quinzaine d'années deux ouvrages très importants, toujours sur la mer et sur la pêche. L'un se passait spécialement au Spitzberg, il s'appelait Racleur d'océan, et l'autre, Géant des mers chaudes en Afrique. Anita Conti, vous êtes une femme marin, mais comment en êtes-vous venue à vivre vraiment à bord comme personne peut-être n'a jamais vécu sur des bateaux ? Aucune femme, je veux dire, n'a jamais vécu sur des bateaux. Vous avez passé 6 mois au Spitzberg, je crois, dans le temps.
Oui, 6 mois, oui, plusieurs mois, des campagnes au Spitzberg, des campagnes au Groenland.
Que faisiez-vous à bord exactement ?
Quand je suis à bord d'un navire de pêche, je prends la cadence de la vie qui est appliquée sur le navire, mais avec des consignes qui me sont données à terre dans les laboratoires scientifiques des organismes auxquels je suis rattaché. C'est-à-dire qu'on me demande de rapporter des informations et que naturellement, j'ai un programme. Bon, ce programme, je l'applique avec la cadence d'existence du navire sur lequel j'embarque.
Forcément. Des informations scientifiques.
Informations scientifiques, apprendre, mais apprendre sur un navire qui n'est pas un navire océanographique. De temps en temps, naturellement, j'embarque sur des navires océanographiques. Mais dans la majeure partie des cas, j'embarque sur des navires très simples, qui ont peu de matériel de recherche, mais qui me donne, par la considérable masse des matériaux pêchés, le moyen de faire des observations qui ensuite permettent à terre de faire des calculs de moyenne, donc d'être pris en charge par les techniciens scientifiques.
Là, je pense que c'est spécialement scientifique dans le Nord, mais quand vous étiez au large de l'Afrique, il me semble que votre pêche était plus pragmatique.
Lorsque je me suis trouvé en Afrique et amené à faire ces recherches avec les hommes noirs qui étaient mes marins, eh bien, nous avons travaillé ensemble pendant 10 ans avec passion. Et ces marins étant d'excellents marins, par exemple au Sénégal, où sont de véritables dauphins, de telle sorte qu'avec des marins de cette qualité et avec du matériel extrêmement léger mais très bien calculé pour tenir la mer, puisque nous avions des pirogues très bien taillées et des moteurs en plus, parce que tout de même il a fallu ajouter des moteurs à la propulsion par les voiles habituelles, parce que tout de même ça n'aurait pas donné de résultats suffisants. Eh bien, nous sommes arrivés à tirer de l'eau des milliers de requins de toutes les espèces et nous arrivions assez rapidement à déterminer les espèces, les états sexuels et extraire les foies et alors ensuite, soit par bananier rapide, soit par avion, les envoyer sur les laboratoires de la métropole et à ce moment-là permettre des analyses beaucoup plus fines que celles que nous aurions pu faire sur des plages.
L'intérêt de la chose, je suppose que c'est, par exemple, arriver à dire en telle saison, vous pouvez pêcher le requin,
et exactement. En telle saison, vous ne pouvez pas. Vous avez parfaitement raison, c'est ça.
Depuis cette expérience africaine, vous continuez à naviguer, mais je crois que c'est surtout en Atlantique.
Oui, parce que j'ai toujours tenté de pouvoir faire des comparaisons entre le Nord et le Sud, parce que si on se déplace d'est-ouest, on peut rester sur les mêmes parallèles, donc se trouver dans les mêmes températures. Tandis que ce qui est la caractéristique prodigieuse des masses océaniques, c'est la lenteur et la puissance de leur déplacement, de telle sorte que les animaux qui vivent dans un climat se trouvent amenés à se déplacer avec ou contre ce climat, suivant qu'il leur convient ou ne leur convient pas. Alors, en naviguant du nord au sud d'un océan, on obtient la vision de tous les types d'animaux par rapport à tous ces déplacements dont je viens de vous parler. Il y a un problème fabuleux qui est à l'échelle de la planète, c'est l'utilisation des masses océaniques. Où nous allons utiliser l'océan avec une certaine intelligence et il nous donnera beaucoup. Où nous allons le dérégler, ce sera dommage, mais je crois que ce n'est plus à craindre parce qu'il y a de telles organisations scientifiques créées pour cette étude dans tous les pays maritimes et il n'y a que très peu de pays qui ne soient pas maritimes. Donc, partout, les organismes créés travaillent en liaison. Alors, personnellement, mon rôle a été très simple. Comme j'avais une idée assez, qui était une puissante interrogation, avec tous les navires imaginables, j'ai suivi mon idée qui m'a mené en face des animaux et des masses océaniques qui les contiennent. Et puis voilà tout.
Voilà, et c'est après cela que vous avez écrit ce très beau livre qui vient d'être couronné par la Delphe. Alors nous allons maintenant entendre quelques pages de ce très beau livre et nous vous retrouverons après cette lecture.
Par mer forte et vent de suroît, le 5 octobre à 16h10, un chalutier de 26 mètres a pris la sortie de Concarneau. Il va se dégager des roches balisées qui jalonnent les passes et fera route vers les lieux de pêche. Lesquels ? Au port, les émissions radio sont interdites. Ici, la pointe du Cabellou n'a pas encore défilé sur notre gauche et déjà le TSF manipule. Il appelle les camarades. Sur l'immense mer, où sont-ils ? L'horizon devant soi n'est qu'un voile gris traversé de lueurs pluvieuses. Les eaux reflètent des éclats d'orage et là-dedans se révèlent quelques petits bateaux de pêche côtière. Ils avancent à choc rompu, sertis d'un éclaboussement blanc brutal. Leurs formes masquées d'écume grandissent à peine en nous croisant. Sardiniers, guilvinistes, caseilleurs qui rentrent du travail quotidien. « Ça va plonger !» dit le Bosco en venant à la roue relayer son capitaine qui va rejoindre le TSF. Et maintenant, hors des roches, à la fois dangereuses et protectrices, nous sommes saisis par les ressauts du large. Dans l'est, la ligne de terre est masquée de pluie et les grands phares élancent leurs silhouettes incertaines. Au ras de côte, les chaînes de récifs dressent des têtes noires. Sur elle s'écrasent les bouillonnements et les rafales emportent des fumées d'écume. Densité irréelle et piège impitoyable. Dans le poste de radio, le contact est pris avec la haute mer. Tous les bateaux de pêche luttent contre des eaux difficiles. Et les voix qui retentissent à nos oreilles ont traversé des immensités sauvages. Elles viennent du nord-nord-ouest dans l'ensemble. Et depuis la petite Sole jusqu'au banc d'Irlande, sur toutes les zones des abords de la Manche favorables à la pêche des espèces réclamées par la mode gastronomique, les bateaux d'Angleterre ou d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique ou de France se croisent et s'entrecroisent, enragés d'orgueil professionnel, harcelés par la concurrence. Vers ces flottilles, le bateau fait route. Au long de cette route, nous avons mis en pêche pour essai. Un claquement. La poche ouverte laisse couler un brusque flot glissant et lourd. La masse cogne le pont et s'étale entre les parcs et la lisse bâbord, étrangement incolore, à peine palpitante. Vers ce pâle tapis, les dos se courbent et les mains se tendent, à gestes doux. Comment ces hommes, si rapides aux manœuvres de matériel, deviennent-ils soudain si prudemment minutieux? Pour ne pas écraser quelques crabes ou des oursins qui dissimulent peut-être un poisson de valeur marchande, chaque botte glisse en souplesse. Nul mouvement n'est brusque. Et seules sont ramassées les espèces commerciales. Alors tout de suite, les bêtes choisies sont posées en panier. Les dorades rejoignent les dorades. Quelques grondins sont réunis. Et le triage continue.
Le sable monte.
Ainsi me disait ce matin le treilliste. Le sable monte. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire à un bateau de commerce, cargo ou paquebot? Pour lui, pour eux tous, mer forte, cela peut signifier gêne et fatigue. C'est l'inconvénient de surface qui contrarie la route et les horaires. Mais pour les pêcheurs, la surface n'est que le support du navire. Et au long des jours, leur pensée travaille. Elle suit la vie animale dans son eau, dessous. Et quoi qu'on sache bien que sous 25, 30 ou 40 mètres d'épaisseur enragée, la zone de calme est pratiquement atteinte, on sait bien aussi qu'un phénomène en correspond toujours un autre. Et lentement doivent s'établir des contacts entre les mouvements atmosphériques, la surface de la mer directement frappée et les caractères locaux des invisibles fonds. Mauvais temps au bas niveau du ciel. Des vibrations doivent parvenir à travers la mer jusqu'au sol. Et le poisson s'énerve-t-il comme nous lorsque pèsent les orages? Et chaque race s'émeut-elle suivant son tempérament? Le poisson. Sur un chalutier de pêche fraîche, jamais un mot ne m'a paru plus invraisemblable. Le poisson. Non. Des bêtes. Toutes sortes de bêtes. Celles du fond d'abord. Pour les apporter ici, la gueule énorme du filet les a d'abord arrachées du sol par son bourrelet de lèvres inférieures alourdi de chaînes de fer. Et les bêtes ont roulé comme des plantes emportées par une avalanche. Avec elles, des pierrailles légères dans l'eau ont suivi le gorget jusqu'au ventre. L'avancée régulière du chalut continuait sa route sous 220 mètres d'épaisseur liquide dans ce paysage où le conduisait son tracteur aveugle, là-haut secoué par la mer. Et chaque levée de houle se transmettait jusqu'au chalut, atténué et pourtant sensible au brusque ressaut de la surface. Les panneaux soudain hésitants laissaient mollir les bras qui vont à la gueule. Je regardais le groupe formé par le capitaine, le chef et le radio. Vraiment, sur une bonne barque, avec ses trois types de formation technique, et si l'on y ajoute le Bosco, maître d'équipage, on peut aller travailler partout sur la terre. Ce soir-là, il n'y eut guère de mots à prononcer parce que ces hommes s'étaient compris. Et méthodiquement, 5 tonnes de poissons frais et réprochables de qualité, 5 000 kilos de chair animale qui avait exigé beaucoup de travail pour être pêchée, lavée, glacée, toute cette valeur sauvage complétée par la valeur de l'effort humain, fut rejetée à la mer. Cela parce que le prix des maquereaux n'aurait même pas remboursé les frais de débarquement et de vente. 2h du matin, 16 octobre. Sur le toit de la passerelle, j'étais montée pour fuir un moment cette passion du jeu qui se concentre dans un équipage, et l'ampleur de la nuit m'avait retenue. J'étais restée là, bien calée au pied du goniot, liée au frémissement continu du navire. Le temps ne se mesurait plus. Les regards pouvaient se perdre dans la noire transparence. Nous étions en route. La mer fut immense et froide. Elle était délivrée du ciel d'orage qui avait longtemps noirci l'horizon. Elle sortait de cette épaisseur basse et lourde. Elle s'étalait jusqu'à perte de vue, en gonflant des courbes qui semblaient des ailes et retombaient sur l'épaisseur de leurs ondes. Elle se gonflait comme un oiseau qui va s'envoler. Mais sa force ne pouvait se détacher d'elle-même, et chaque levée de houle profonde et vibrante périssait de son propre élan. Les sommets glissaient sous mon front. L'air fut un cristal glacé. Dans l'ombre, le cœur du bateau tapait à choc rapide, suralimenté. En lui, dans le moteur propre, je savais qu'il faisait chaud. Le désir de cette chaleur obsédait mes sens. L'ivresse du froid brisait mes forces. Et les feux de mât traçaient des arcs dans les étoiles. Où étions-nous sur la Terre ? 23 heures. Toute la journée, le bateau a bien pêché, à travers une mer généreuse, à reflets gras, comme un sol inondé de pluie. Cette mer nous prenait dans ses courbes maniables, et de la houle longue de surface jusqu'au fond, bateau porté, emporté, balancé, et de lui jusqu'au filet traîne, sans rudesse, sur l'accore sableau-vaseux, une cadence immense reliait les pièces du système. Dans la cale, et sur chaque étage glacé juste à point, les bêtes soigneusement vidées, lavées, rincées et rincées encore, se serraient en souplesse dans les casiers de matière plastique givrée de blanc. ...23h10... Les treuils tournent une fois de plus pour virer le chalut. Sous le vent qui s'est levé, la mer a forcé. Le travail avança régulièrement sous la pluie qui avait commencé de fouetter, poussée par de courtes rafales et tissant un voile oblique illuminé par les feux du pont. Les paniers s'en éclairaient. La peau des trigues fut d'écarlate et celle des dorades, plus soyeuse et plus pâle, scintilla de lueur orée. Elle s'empourprait autour du gros œil, serti comme la pierre d'une bague à plusieurs rangs d'émail. Et tous les yeux des poissons qui tordaient leur corps de lumière luisaient de cet éclat. C'était une masse de bêtes vivantes. Il fallait les tuer. Le sang rose d'une grande baudroie jaillit sous le couteau. Dans sa tête, beaucoup plus large que le mince corps musclé, brillaient aussi les yeux. La tête coupée glissa jusqu'au dallon. Le vent plaquait de la pluie sur l'écume et le roulis devenait brutal. La tuerie nécessaire s'accéléra. Toutes les paillettes et tous les métaux d'une vision de théâtre n'auraient pas jeté sous les flots de lumière tant de vermeil, de sang et d'éclairs. Autour de la scène, les vols courbes des oiseaux déchiraient les murs de nuit noire. Ils traçaient des lueurs et rentraient dans la nuit. Sous le pont, au centre du navire, quelque chose frissonna et s'amortit. Toutes les forces du vent et des eaux parurent hésiter. La mer battit mollement le flanc tribord et le bateau vint en travers, porté à la cadence énorme et soudain lente. La machine était stoppée. Il n'y eut plus que le ronflement des moteurs auxiliaires et sous le feu des projecteurs, les gestes des hommes, debout, contre les tombées de pluie. ...10h14... Le trafic de détresse se déclenche. Un cargo espagnol est en avarie de machines. Il craint de faire côte. Le Penverne, cargo français, lui répond sur 137,50 m. Il se déroute, il vient. L'Espagnol comprend mal le français et parle un mauvais anglais. Le Penverne insiste pour lui remonter le moral. L'Espagnol s'épouvante. Les vents vont le drosser vers les rochers. Le Penverne force la vitesse en pleine violence de la mer. Il arrive. Est-ce lui ? À moins de 3 000 de nous ? Quand une crête nous soulève, j'aperçois deux mâts et nous retombons dans les trous. Il n'y a plus rien qu'un vent sauvage et des masses qui s'effondrent. Nous traînons dans les bouillonnements. Le cargo français a réussi le passage d'une haussière à l'Espagnol. Il le hale vers le large. Gueulement de joie dans un rare sabir. L'Espagnol reprend du vif. Ça ne dure pas, la remorque se rompt. Nouveaux efforts, d'autres voix retentissent, l'Espagnol gémit, ses machines sont inertes et le vent forcit. Alors, Angélique, à travers ce concert, nous offrons notre aide, bien faible certes, mais nous l'offrons poliment, consciencieusement. Aussitôt quelque chose nous répond. Ce n'est pas parole d'homme qui entre ici, c'est la voix tonitruante d'un robot. La radio n'a pas le temps de régler l'intensité, la voix retentit, énorme.
Vous n'êtes pas regardé ? Écoutez, vous trouvez ! Ça vaudrait mieux pour tout le monde !
Il est tout de même un peu vache, le Penverne.
Il y avait pourtant là-dedans un peu de vérité. Nous étions légers sur les crêtes et nous faisions de drôles de sauts. On fêtera Noël ce soir. 4 bouteilles de champagne et 2 gâteaux. C'est Gérard Lanlot, l'armateur, qui a pensé à nous. Et le champagne est au frais dans la cale avec les poissons. Et évidemment, il faut aller l'y chercher, donc ouvrir le panneau du milieu du pont.
Sans se faire enlever par une lame sourde.
Noël. Le navire roule sur un océan livide. Les hommes chantent. Les vagues s'écrasent. Il y a des voix belles, des voix rauques, curieuses. J'étais montée sur la passerelle lorsqu'un appel me rejoint.
Madame, c'est Drian.
Eh bien ?
Perdu connaissance.
Je dégringole l'échelle. Je m'assieds sur le banc qui court au bas des couchettes, tout autour du poste d'équipage. Bientôt, le second mécanicien revient avec un grog chaud. Il le lui fait boire et le malade se ranime. Le malade. Ce mot me paraît faux, ridicule, féroce. Et j'ose regarder doucement le visage encore tout blême. Malade de quoi, Dréan ? L'homme se soulève. Brusquement, sa face est en larmes. Dréan pleure sans grimace. L'eau coule de ses yeux et s'enfonce dans le col de tricot. Il se soulève davantage. Des gouttes de cette eau tombent sur ma main.
Je suis pas malade. Vous le savez bien. Et c'est pire. Je suis un homme fini pour le métier. Et j'ai 5 enfants. 5 jeunes. Marié trop tard.
Thomas, dit le gitan, était revenu. Il écoutait.
C'est vrai ce qu'il explique. Le métier est trop dur ici. Avant 50 ans, on les cuit. Même à 40, il y en a qui flanchent. Les seuls qui tiennent, c'est les couillons ou alors les grands ambitieux.
Le gitan épanoui rigole de toute sa face. Une brutale roulée l'aplatit sur la cloison. Il se frotta en se relevant.
À 50 ans, on crèvera tous.
L'aube revenait déjà. J'étais rompu. J'aurais voulu arrêter quelque chose, n'importe quoi. Une vague, un nuage, un oiseau. Non, rien ne pouvait s'arrêter. C'est effroyable et fou, un navire de pêche cap sur le poisson. C'est l'heure qui fuit, les étoiles qui marchent, le sang qui bat. J'étais vané. L'aurore s'empourprait. Le souffle glacial des nuits d'hiver poussa les dernières nuées. Le soleil sortait et le gaillard flammé de lumière crevait la houle encore noire. On rentrerait à bloc de charge dans la cale. On serait fiers et plein d'argent pour les familles. J'étais ivre de la fierté du bateau. Tout était correct et sans fin. La marée continuait. C'était le métier.
Anita Conti, nous venons d'entendre quelques pages de votre livre. Je ne veux pas dire que c'est un reportage sur la vie à bord des chalutiers, parce que ce n'est pas un livre de journaliste, c'est un livre vraiment d'une femme écrivain. Non seulement vous êtes une femme marin, mais en plus vous êtes un écrivain. Mais enfin, malgré tout, il y a dans votre livre une très grosse question posée, c'est quand allons-nous sortir de la cueillette en quelque sorte, n'est-ce pas? On racle les fonds de l'océan.
Oui, certainement, mais tous les pays actuels tentent d'utiliser leurs côtes, leurs plateaux continentaux, c'est-à-dire le support des continents, pour y établir des sortes de nurseries où on peut provoquer la multiplication des jeunes bêtes. Mais ce qui est possible dans une rivière, pour un petit nombre d'individus, n'est pas possible dans la vaste mer avec des milliards de milliards d'individus. Et lorsqu'on déverse sur eux le contenu d'un estuaire comme celui de fleuve que nous connaissons et qui ne traîne que le résidu des grandes villes.
Je crois que vous avez, vous, trouvé un moyen.
C'est-à-dire que cet ouvrage représente une grande somme d'observations. Elles étaient toutes à la fois sincères et vraiment enregistrées sans parti pris. Et même chaque fois que j'avais rencontré des souvenirs historiques qui avaient pris une vie durable par l'effort des artisans côtiers ou riverains de fleuves, eh bien je m'étais enthousiasmée pour leur idée, je l'avais cru bonne, et j'avais vécu avec eux vraiment leur aventure. Je m'étais dit, en leur donnant des moyens modernes, eh bien nous arriverons, avec cette idée un peu plus ancienne, à quelque chose. Et c'était vraiment une telle passion de confiance que vraiment j'ai cru vivre avec eux. Et puis, chaque fois qu'il s'agissait de développer le principe et de l'amener à un volume qui puisse être qualifié de volume industriel, de quantité industrielle, eh bien j'arrivais à un seul mot, le mot limitation. C'était ou la limitation de liquide, ou la limitation de volume de contenant. Quand ce sont des lagunes, vous ne pouvez pas écarter des frontières. Et s'il s'agit d'installer des pompes, cela fait des frais industriels considérables.
Autrement dit, il faut aller en pleine mer.
Eh bien, je suis arrivée en pleine mer.
Et en pleine mer avec des instruments nouveaux, qui ne sont pas encore des instruments de pêche, avec des instruments qui soient des instruments de culture en pleine mer.
Il faut que cela devienne ça. C'est-à-dire, il y a deux types d'êtres sur la terre. Il y a les chasseurs, il y aura toujours des chasseurs, et il faudra toujours que l'esprit chasseur puisse se développer. Il ne faut pas modifier la nature humaine. Les chasseurs existeront toujours, et c'est une force magnifique en route. Mais il y aura en même temps des producteurs, et on pourrait dire que l'esprit producteur est presque privilégié, c'est une sorte d'orgueil de faire produire. Bon, eh bien, nous aurons des appareils formidablement importants, constitués de frontières perméables et liés au mouvement océanique.
C'était Anita Conti, racontée sur France Culture en 1972, première diffusion le 24 septembre, dans l'émission Livre de Grand-Air. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.
Oh, how I wish you were here. You are just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. And now I'm running over that same old ground. What have I found? The same old fears. Oh, how I wish you were here. Can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? You were just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. And now I'm running over the same old ground. What have I found? The same old fears. Sure do wish you were here. Oh, do wish you were here.